Shalom à tous. Je suis
Alors.
l'heure la plus difficile apparemment, parce que
Oui,
tout le monde est fatigué, donc je me dois d'être encore un petit peu plus intéressant pour Be'ezrat Hashem faire partager mon sujet. Je vais essayer de ramener le texte. Voilà, donc nous avons le texte. Comment je fais pour être en même temps?
Juste, on demande aux personnes d'éteindre leur microphone, sauf quand ils ont une question. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont laissé leur microphone ouvert. Ça dérange le cours. Tout
Alors, déjà, nous avons vu que notre livre, le livre que nous avons pris, s'appelle Derech Hashem. Pour comprendre en réalité ce que veut dire Derech Hashem, eh bien, il y a pas mal d'explications. Une explication simple, c'est d'abord, ce n'est pas le chemin pour arriver à Dieu, c'est le chemin de Dieu. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises qu'on n'arrive pas à Dieu. C'est Dieu qui arrive vers nous. C'est-à-dire qu'il y a une descente de la volonté divine vers le monde qu'il a créé. Ça, c'est très important de le savoir. Autrement dit, Dieu a trouvé son chemin pour se dévoiler à sa propre création. Donc, Derech Hashem, c'est son Derech. C'est le Derech d'Hashem pour se dévoiler dans le monde. Le Derech d'Hashem a un nom bien précis. Il s'appelle Israël. C'est-à-dire que le chemin divin pour se dévoiler dans le monde, c'est le canal Israël. Israël, c'est donc Derech Hashem. Lorsque le Ramchal parle de Derech Hashem, il parle du peuple d'Israël capable à lui seul d'être le traducteur, en quelque sorte, des valeurs divines dans ce monde. Traducteur des valeurs divines suppose avoir la qualité de base nécessaire pour traduire les valeurs du ciel. Il faut déjà être solide et résistant à la lumière divine et à sa volonté. Quiconque s'amuse à jouer ce rôle et qu'il ne l'a pas, à un moment donné, il brûle. Tout simplement parce qu'on ne peut pas dévoiler Dieu dans ce monde si on n'a pas la résistance. De la même manière qu'une lampe électrique, si je veux qu'elle éclaire 100 watts, eh bien je dois acheter une résistance. Je demande au marchand d'électricité une ampoule de 100 watts. Qu'est-ce que c'est que j'achète en réalité? J'achète la résistance. J'achète une résistance qui est capable de résister à cette valeur de lumière que je cherche. Autrement dit, plus la valeur de la lumière est grande, plus la résistance doit résister à cette lumière. Si elle ne résiste pas, eh bien, il y a un court-circuit et au lieu de lumière, il y a un grand noir. Pour résister à l'infini, à la lumière de l'infini, il faut une résistance infinie. Vous comprenez bien que si quelqu'un joue à essayer de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde et qu'il n'est pas capable de le faire, eh bien, il implose, il explose, comme vous voulez, peu importe les notions utilisées. Israël, donc, a été créé, a été choisi pour avoir été créé avec cette qualité et cette capacité de base. Lorsqu'on parle d'un choix qu'il y a eu par rapport à l'Éternel et Israël, on parle en réalité d'un choix de création. Ce n'est pas un choix qui a eu lieu après avoir créé le monde. Dieu n'a pas cherché un peuple, ne s'est pas cherché un intermédiaire après avoir créé le monde. Dieu a créé déjà le monde avec la qualité d'âme qui est capable de le révéler. La qualité d'âme qui est capable de le révéler s'appelle donc Israël. Donc, Derech Hashem. Maintenant, pour essayer de comprendre comment l'infini béni soit-il dévoile sa lumière, sa volonté, on ne parle pas de lui, bien entendu, et c'était ça la clé de notre livre, déjà au départ, on parle de sa volonté, c'est-à-dire de la traduction de sa morale, on va dire, dans le monde, pour que le monde puisse vivre selon des critères d'en haut et pas des critères humains, des critères qui viennent d'un homme aussi développé soit-il, il sera toujours subjectif. Alors que nous avons affaire ici à la lumière objective de l'Éternel. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que chaque fois, je ramène en fait cette notion, on ne fait pas le lien avec Dieu du bas vers le haut. On ne va pas chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, c'est avec mes forces à moi. Or, mes forces à moi sont, encore une fois, subjectives. Elles ne sont pas vraies selon la vérité absolue. Elles ne sont vraies que pour moi, que par rapport à mon prisme à moi. Donc, je ne peux pas aller chercher celui qui est de l'ordre de l'infini avec mes forces finies, limitées. Alors, je le laisse venir à moi. Donc, tout le sens du judaïsme, c'est toujours du haut vers le bas. Jamais du bas vers le haut. Autrement dit, je dois faire en sorte de ne pas gêner l'écoulement du divin à travers moi. Alors, au niveau individuel, ça, cela se comprend. Mais nous avons quelque chose d'exceptionnel, c'est que nous n'avons pas été choisis seulement en tant qu'individus pour faire ce travail, mais d'abord et avant tout, nous avons été choisis en tant que nation. Et par hasard ou pas par hasard, la paracha de Lech Lecha que nous allons lire le Shabbat qui vient, Be'ezrat Hashem, eh bien, elle nous explique en fait ce secret, c'est que l'infini béni soit-il, sa volonté se dévoile à l'être, Abraham, qui lui est porteur, pas d'un homme, mais de la nation tout entière. Donc, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il ne s'adresse pas à l'homme, Abraham. Il faut faire très attention. Ça, c'est une erreur. Quand je pose aux élèves à qui Dieu a dit « Lech Lecha », tout le monde me dit « Abraham ». Le Zohar nous dit « Tu ne comprends rien ». Quand Dieu dit « Lech Lecha », il parle à tous les enfants d'Israël issus d'Abraham et à toutes les générations. C'est-à-dire que c'est une forme de impérative du divin. J'ai besoin de me dévoiler dans le monde et je t'ai choisi, toi. Pas homme d'Israël, mais peuple d'Israël. Je vous rappelle qu'Abraham était déjà un homme. Et Dieu ne lui dit pas « Chazak ou Baruch, c'est super ce que tu fais ». Il lui dit « Arrête ce que tu fais ». Alors, si je vous traduis, ça fait un peu mal. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est ce que fait un juif religieux en dehors de sa terre. C'est-à-dire qu'il va mettre les tefilines aux gens, qu'il va leur distribuer des beignets à Hanouka, qui va allumer la Hanoukia je ne sais où dans une place en France ou ailleurs, mais ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de quitter ça. Pourquoi faire ? Pour atteindre une terre de laquelle tu vas te révéler en tant que peuple. Je vais le dire avec des mots un petit peu plus durs. Tu ne m'intéresses pas en tant qu'homme individuel religieux. Moi, l'Éternel, pour me diffuser dans ce monde, j'ai besoin d'une nation. Je crois que les choses sont assez claires. Et tant que tu ne seras pas une nation, eh bien, il n'y aura pas de bénédiction dans le monde. Puisque la suite du verset, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama », c'est-à-dire que la bénédiction et le lien de toutes les familles de la terre ne vient pas parce que tu es un juif qui habite New York, mais parce qu'il y a un peuple sur sa terre. Je vais plus loin. La mitzvah que Dieu dit à ce prophète d'une manière directe, parce qu'Abraham reçoit une prophétie, Lech Lecha. Si Abraham reçoit une prophétie de Lech Lecha, la première prophétie de l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu dévoile à un homme, c'est en réalité devient un peuple sur sa terre. Aujourd'hui, on appelle ça « va fonder l'État d'Israël ». C'est ça que Dieu demande à Abraham. un peuple sur sa terre, c'est en réalité un développement politique. Et une fois que tu développeras ce degré national de Kodesh, et non pas seulement individuel de Kodesh, ça tout le monde peut le faire. Moi je veux une nation, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Alors là, c'est autre chose. Et ça, ça ne peut pas se faire en dehors de la terre que moi, l'Éternel, j'ai choisie. Donc tu peux te trouver toutes les excuses du monde. Ça ne change rien à cette réalité. Et là, ce n'est plus une réalité subjective, mais bien au contraire, une réalité objective. Celle que l'infini béni soit-il a choisie pour le peuple d'Israël et pour lui-même finalement, parce que son histoire en réalité passe par notre histoire. Donc l'histoire d'Israël, c'est le rêve de Dieu qui se réalise. Alors nous sommes arrivés à, dans l'explication de cette divinité, nous avons expliqué qu'il s'agit là d'une identité et non pas de quelque chose. Donc nous nous adressons à Dieu comme à une identité infinie, bien entendu, mais une identité. Car s'il s'agissait de quelque chose, si vous traduisez Dieu comme une force, aussi grand soit-elle, eh bien, en réalité, vous faites face à quelque chose qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de possibilité de développer un dialogue. Alors que lorsque nous nous adressons à l'infini, béni soit-il, comme une identité infinie, un « mi » et non pas un « ma », eh bien, ça change tout. Là, il y a un interlocuteur et effectivement, Kadosh Baruch Hu parle à l'homme. Je vais dire quelque chose d'un petit peu plus profond, même au niveau individuel. Si tu veux que l'infini, béni soit-il, te parle, que tu entendes quelque part sa voix, eh bien, tant que tu t'adresseras à lui comme à quelque chose, tu ne recevras pas grand-chose. Mais si tu commences à t'adresser à lui comme une identité infinie, alors là, tu commences à développer la possibilité d'un dialogue et nous sommes le porte-parole en tant que peuple de cette parole divine. Une fois que le peuple est là, eh bien, les individus de ce peuple, car les individus ne sont rien s'ils ne sont pas de ce peuple. Encore une fois, le détail n'existe pas. Il existe que parce qu'il est associé à un tout. Je ne peux pas dire le rayon. Vous ne savez pas de quoi je veux parler. Si je dis le rayon d'un vélo, alors vous savez que le sujet est un vélo. Le rayon d'un soleil, vous savez que c'est un rayon du soleil. Eh bien, quand je dis porte-parole en tant qu'individu de la nation d'Israël, sinon, en tant qu'individu, je ne peux pas arriver à cette force. Encore une fois, la preuve, Abraham Avinu. Abraham, aussi grand était-il, ça ne suffisait pas à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il vient lui dire « Lech, Lecha », ça suffit. Ce stade, tu l'as déjà dépassé. Alors, il faut bien comprendre qu'Abraham Avinu était dans ce stade durant 75 ans. C'est-à-dire que pendant 75 ans, Abraham a vécu comme un homme religieux, entre guillemets, qui essaie de faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance de Dieu. Avec le langage d'aujourd'hui, il fait faire teshuva aux gens. À 75 ans, il y a une révélation qui vient. Et vous voyez qu'il y a aussi une patience, parce que 75 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Et là, il y a une descente du haut vers le bas qui dit à Abraham, stop. Le temps est arrivé maintenant de développer véritablement ce que je veux de toi, ce que j'attends de toi. Et ce que j'attends de toi, ce n'est pas un Abraham amélioré. J'attends de toi un peuple. Il est en toi. Il est à l'intérieur de toi. D'ailleurs, je te parle parce que je parle au peuple qui est en toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous aussi, en tant qu'individus d'Israël, nous devons comprendre que sans notre appartenance à cette nation, au niveau individuel, on a beau faire ce qu'on veut, ce n'est pas la volonté de l'infini. Alors, bien entendu, tu peux développer une Torah comme tu as envie, mais là, tu deviens religieux. Étant donné qu'il s'agit là d'un rapport du haut vers le bas, il y a quelque chose d'objectif, il y a quelque chose de vrai, d'absolu, que je ne peux pas, moi, l'homme, inventer. Et chaque fois qu'un homme s'est inventé une façon de faire, il en est mort. Parce qu'en réalité, ce mouvement doit être toujours du haut vers le bas, de l'infini béni soit-il vers le monde. Et tout ce que je viens de dire, ça se traduit par un mot, la Emouna. Donc, lorsqu'on étudie ce livre de Emouna d'Erech Hashem, eh bien, on étudie le moyen qu'Hashem a choisi avec son infinité pour véhiculer ses valeurs dans sa propre création. Et encore une fois, et je résume, ce chemin s'appelle Israël. Donc, comprenez bien, Israël, c'est Derech Hashem. Nous sommes arrivés, donc vous avez vu ici le premier chapitre, nous sommes déjà, je fais juste un petit rappel, dans le chapitre 1, Hé, Shemetziuto Idbarach Metziut Pashut.
Ken. On peut poser une question ?
Oui, bien sûr.
Oui, vous avez parlé de, donc, d'Abraham et de, du potentiel du âme Israël qu'il y avait en lui. Dans un cours que vous avez envoyé la semaine dernière sur Noach, vous avez, on fait souvent un parallèle entre Noach et Abraham, et vous avez dit que Noach, Matzachen Be'ene Hashem, Chen Lashon Chinam, ça veut dire qu'il a été choisi pas pour son niveau actuel, mais pour Abraham qui allait descendre de lui.
Tout à fait.
Or là, l'explication que vous donnez actuellement, ça ressemble beaucoup. Ça veut dire que ce n'est pas que pour son individu, mais c'est pour le potentiel peuple qui va sortir de lui.
Exactement. Est-ce qu'il y avait... Oui, Même chez Noach, on n'attend pas Abraham, on attend le peuple d'Israël.
Ah, ok.
C'est-à-dire que si je replie en fait la création du monde, toute la création du monde, rappelez-vous, commence par le mot « Bereshit ». Et immédiatement, les sages nous disent « Bereshit » égale « Israël ». Ça veut dire quoi ? La pensée divine, première, primordiale, ne va que dans un sens. Tant que je n'ai pas cette forme d'âme qui s'appelle Israël, qui va être bien entendu portée par des individus, eh bien, moi, Dieu... Écoutez bien, je vais dire quelque chose de grave. Je reste dans mon exil céleste. Je ne peux pas descendre et me révéler sur terre dans ma propre création. Le peuple d'Israël va ramener Dieu de son ciel pour le faire descendre sur la terre. Ça, c'est la puissance du peuple d'Israël. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous avons été fabriqués avec cette matière-là qui nous donne la possibilité de faire cela. Et si d'ailleurs nous ne faisons pas ce travail, eh bien comprenez bien que nous souffrons et que l'univers tout entier souffre parce que nous ne sommes pas là pour traduire, pour acheminer les valeurs du ciel dans ce monde. Et donc le monde est dans un manque. Et ce manque, c'est Israël qui doit le combler parce que Israël porte en lui ses valeurs du divin. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Oui, c'est très clair. Et juste, excusez-moi, je voulais juste préciser. Donc en fait, ma question était, donc qu'est-ce qui va différencier Noach d'Abraham si en fait ils n'ont pas de, comment dire, le choix de Dieu n'a pas été pour leur individu mais pour ce qui va sortir d'eux. Alors on a l'habitude de dire qu'Abraham est toujours plus grand que Noach.
Tout à fait, puisque au niveau de leur façon de faire, Abraham s'est occupé. Nous voyons par exemple des exemples. Même si Abraham ne connaît pas les gens de Sodome et Gomorre, eh bien, il va prier pour annuler un décret divin. En tout cas, la Torah le dit. Si la Torah choisit de nous raconter une histoire pareille, c'est qu'elle a un but. Concernant Noach, on ne sait rien. Et étant donné que la Torah n'en parle pas du tout, qu'il n'a pas fait d'effort quelque part pour aller chercher les hommes, les femmes, les enfants de son époque, le Zohar va être beaucoup plus difficile et va dire, non seulement il n'a pas pensé aux autres, mais en réalité, la seule question qu'il a posée à Dieu, c'est « qu'est-ce que je vais devenir moi ?» Donc il y a ici un décalage entre un homme complètement individuel qui n'a pas pris conscience encore qu'il a ce potentiel en lui, et face à lui, Abraham qui a déjà un potentiel, mais qui commence déjà à avoir cette conscience. On peut dire qu'en réalité, dans le narratif de la Torah, il s'agit d'une seule et même personne, d'ailleurs qui va se développer jusqu'au Mashiach. Donc, Adam Arishon, Noach, Abraham, Moshe, qui vous voulez, dans ce cheminement jusqu'au Mashiach, c'est une seule et même histoire qui se développe comme une mutation de l'histoire pour devenir réellement et concrètement porteur du message divin. Est-ce que
magnifique.
C'est
magnifique, merci beaucoup.
Voilà. Je vous demande de fermer les micros parce que ceux qui n'ont pas fermé les micros et qui ne posent pas de questions, il y a beaucoup de bruit et ça dérange le cours. Ceux qui veulent poser des questions, avec plaisir, on est là pour répondre. Merci pour vos questions, c'est très très important.
On a une énorme responsabilité en ce moment.
Tout à fait, pas seulement en ce moment. Durant toute notre histoire, nous sommes ceux qui pensons aux autres. D'ailleurs, penser à l'autre, l'autre en hébreu se dit « acher ». Et avant d'être « acher », j'enlève une lettre, ça devient « ach ». Et avant d'enlever, j'enlève encore une lettre, il reste « aleph ». Ça veut dire « nous sommes les porteurs du aleph ». Pour avoir le aleph qui se développe, je dois comprendre que l'humanité, c'est « ach ». D'ailleurs, Yaakov le dit au berger, « Achai, me ain, atem. » Vous êtes tous mes frères, on est tous issus d'un seul, du Aleph. Une fois qu'il y a le Acher, qu'il y a l'autre et que j'ai conscience de l'autre, je deviens Achraï. C'est la même racine. Je deviens responsable.
Alors, donc, en ce moment, devons-nous parler de notre responsabilité envers les autres et faire la tfila pour tous ceux qui sont malades et pour que la magefa ta'atsor. Et alors, est-ce que dans ce même moment, nous pouvons parler, même en nos membres des familles qui ne sont pas en Eretz Israël, et nous avons cette route d'être ici, et à partir d'ici, de parler de Kadosh Baruch Hu, parler de notre relation au divin?
Tout à fait. D'ailleurs, le mot « magefa », vous savez qu'en hébreu, tout est dans la racine hébraïque. Begapo, vous avez déjà entendu cette expression. Im begapo yavo, begapo yetze. Qu'est-ce que c'est begapo? Begapo, c'est seul, pour lui-même.
Okay.
J'ai tendance à dire que magefa, c'est en réalité une maladie issue de l'égoïsme. C'est la même racine. Ça veut dire que cette épidémie, entre guillemets, maintenant traduction en français, vient par une trop grande responsabilité que de soi, que de mon petit noyau familial, individuel. Je ne pense qu'à moi. Je ne suis que moi avec moi-même. Et en réalité, personne n'existe à part moi. Ça, c'est cette magefa. Et elle nous donne en réalité... Elle nous pousse à l'extrême parce que nous sommes obligés de nous retrouver quelque part seuls, comme nous le voulions, pour aller au bout de ce seul et retrouver là-bas ce que nous sommes véritablement à l'intérieur, c'est-à-dire un grand tout. Et dans cette solitude, nous ne devons pas rester dans le seul de Begapo, mais de retrouver en réalité la notion de Klal, pas seulement de Klal Israël, mais de Klal Ha'enoshut, de l'humanité tout entière. Et n'oubliez pas, je reviens à cette première prophétie dite à Abraham, donc au peuple d'Israël, à toutes les générations, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama ». Tant que le peuple d'Israël n'est pas la colle, l'adhésif d'entre toutes les nations, eh bien on ne joue pas notre rôle. Alors Israël, effectivement, a toujours été la colle transparente, puisque toutes les nations du monde, pendant beaucoup de générations, étaient toutes d'accord d'être contre Israël. Donc finalement, on a fait en sorte qu'elles soient toutes d'accord. C'est pas évident. Le seul problème, c'est que jusqu'à maintenant, ça a été par la haine. À partir de maintenant, nous devons avoir cette association mondiale pour Israël, parce qu'il y aura, et c'est l'étape maintenant qui est en train de se mettre en place, de la prise de conscience des nations du monde de la place d'Israël. Et vous allez voir donc tous les accords qui vont commencer à se faire avec toutes les nations du monde, parce que Israël doit être celui qui met d'accord tout le monde. Alors, pour être ce peuple de prophètes, nous avons trois règles pour être prophète. Il faut être riche, il faut être fort et il faut être sage, intelligent. Baruch HaShem, on n'a pas approuvé au monde notre intelligence. Baruch HaShem, durant toutes les générations, la richesse d'Israël est en train de se mettre en place dans l'État d'Israël et ça va partir et s'améliorer et s'amplifier. Ça veut dire que l'État d'Israël va devenir un des États les plus riches, si ce n'est que le plus riche du monde, pour que justement la prophétie divine puisse le traverser. Et fort, puissant, Baruch HaShem, nous avons pris l'élément qui nous manquait pendant tous les exils, c'est-à-dire le courage. Donc nous sommes revenus à notre courage premier, on appelle ça le Ometz, et aujourd'hui nos jeunes sont prêts à se battre. Donc nous avons les trois conditions pour réaliser la prophétie divine à travers nous. Donc il n'y a qu'à commencer à bosser. Je reprends mon cours. Est-ce que vous voyez que c'est souligné en jaune chez vous aussi?
Oui, tout à fait.
Ok. Alors, Metziuto Itbarach, Metziut Pashut. Nous avons expliqué que l'existence de Dieu était une existence. Quand je dis existence, c'est-à-dire révélée. Attention, ex, à l'extérieur, exit. Pas, je ne parle pas de son infinité, invisible, incompréhensible. Même ce que nous comprenons, entre guillemets, même ce que nous voyons, même ce que nous recevons de lui, c'est encore Pashut, c'est-à-dire dans le sens simple, Bli Harkava, sans aucune combinaison, sans aucun ribouille, sans aucun pluriel. Cette notion n'existe pas. Klal, aucunement. Je descends plus bas. Ha'adon itbarach shemo. Je fais juste un petit rappel. Et non ba'al kochot shonim. C'est pas qu'il a plusieurs forces. Af alpi shebe'emet yeshbo inyanim shebanuem shonim. Bien que chez nous, l'intelligence, la parole, l'ouïe, le goût, ce sont des degrés différents. Chez lui, ça n'apparaît pas de cette manière. Encore une fois, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de dualité. Il n'y a qu'une infinité unique, une unicité. Et là, nous reprenons aujourd'hui. Venimtsa, sheyesh bo kol hashlemuyot, que l'Éternel béni soit-il est rempli de tout ce qu'on appelle les complétudes. Il n'y a pas plus complet que lui. Loke davar nosaf, ce n'est pas un rajout al mahuto sur ce qu'il était déjà au départ, ce qu'il est déjà au départ, ve amitat inyano et sa vérité absolue en tant que telle. Non, il n'y a pas de rajout. Ela mitzad amitat inyano beatzma. C'est comme ça qu'il est. Je vais utiliser un terme humain. C'est sa nature. La nature de l'infini béni soit-il, c'est la complétude. Il n'y a pas de manque. Shekolelet be'amita kol hashlemuyot. Donc, sa vérité absolue, ce emet, inclut tout ce que vous pouvez comprendre par la notion de complet. Regardez bien, ce n'est pas évident parce que nous sommes en train de parler de notions divines infinies à des humains. Écrit dans un livre pour des humains. Ce n'est pas évident. Ça veut dire que le Ramchal, Alav HaShalom, a fait un effort extraordinaire pour descendre toutes ces notions à une échelle humaine, à un langage que chacun d'entre nous peut comprendre. Chez Yefchar, le Inyan Hahu Mibilti Kol HaShlemuyot Mitzad Atzmo. Donc, rien ne peut être autre qu'une totalité complète de tout ce qu'on vient de voir. Vehine, be'emet haderech hazeh, derech Hashem, hein? Nous sommes dans derech Hashem, donc il ne perd pas de fil. Le Ramchal nous dit, voilà, ce derech-là en question, quelle est la valeur numérique du mot « zé » ? Sept et cinq, ça fait combien ?
12.
Ça fait 12. 12, c'est les 12 tribus d'Israël. Donc, « aderech hazé », c'est les 12 tribus d'Israël qui vont être en réalité le canal par lequel Akadosh Baruch Hu se diffuse dans ce monde. Aderech hazeh rachok me'od. Alors écoutez bien maintenant, parce que je parle de deux sujets simultanément, volontairement. Ce chemin-là, je parle donc de Dieu, mais je parle aussi de son intermédiaire, c'est-à-dire Israël, de son diffuseur de lumière, de son passeur de lumière. Eh bien, de la même manière que l'infini, béni soit-il, est incompréhensible à l'intelligence humaine, rachok me'od me'asagatenu vetziurenu, on n'a aucune possibilité d'atteindre, même pas de dessiner dans notre pensée quoi que ce soit. Vekim'at she'en lanu derech leva'aro, on n'a même pas de chemin, de possibilité d'éclaircir ce sujet. Ou milot, il n'y a pas de parole, les farchos, pour l'exprimer, pour l'expliquer. De qui je parle ? D'Israël et de Dieu. C'est-à-dire que même notre propre peuple d'Israël, cette notion d'âme collective, nous sommes incapables de la comprendre. Tellement elle est grande. Je vous ai dit tout à l'heure, il fallait qu'elle soit avec une résistance telle qu'ils puissent résister à la lumière de l'infini. Donc en réalité, c'est un cli infini qui est censé recevoir la lumière infinie. Donc ni la lumière n'est compréhensible par nous, ni l'ustensile Israël. Et c'est pour ça que le Zohar va dire « Akadosh Baruch Hu, Israël et la Torah, c'est une seule et même chose. » Je continue. Qui en tsiurenu vedimionenu. Nous n'avons pas de possibilité dans notre monde rationnel, intelligent, aussi intelligent soit-il, de pouvoir dessiner ou imaginer, donc donner une image, tofes qui puisse atteindre quoi que ce soit des niveaux que je viens d'évoquer. Ela inyanim mugbalim. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde de gvoul, de frontières. Nous sommes limités. Nous avons des frontières à notre intelligence. Begvoul ateva. Et quelles sont les frontières de ce monde ? Eh bien, la nature tout entière. La nature est complètement limitée. Vous rappelez que la notion la plus extraordinaire, visiblement parlant, dans ce monde de la nature, c'est quelle société ? C'est quel pays ? L'Égypte. L'Égypte, c'est la nature, vous comprenez ? Sortir d'Égypte, c'est être capable de quitter la nature, de transcender la nature. C'est pour cela que celui qui nous a fait sortir d'Égypte, comme je vous l'ai dit dans le premier cours, forcément, c'est lui qui a créé le monde parce qu'il peut tout faire. Comment est-ce que tu peux extirper une force quelconque de la nature ? Ce n'est pas possible. Eh bien, Israël est capable de sortir et de dépasser, de transcender la nature. Pourquoi ? Parce que nous avons un caractère divin. Donc, nous sommes limités dans cette nature. Et mais d'un autre côté, je vous ai dit plus haut que nous sommes ceux qui sont capables de dévoiler le surnaturel, l'infini, béni soit-il. Alors, comment est-ce possible ? Eh bien, nous devons être dans les deux degrés. Nous devons être dans la nature, mais pouvoir la dépasser à partir de la nature. Ça, c'est la force d'Israël. Ce n'est pas quitter la nature, Parce que quitter la nature, encore une fois, c'est devenir religieux. Ce n'est pas ça, en réalité, notre rôle. Notre rôle, c'est de rester dans la nature, mais de trouver en elle les valeurs de l'infini. Ça, c'est la clé, en réalité, de tout ce livre. Donc, étant donné que nous n'avons pas la possibilité, parce que nous sommes limités dans Hateva, Hanivra, qui a été créé dans la nature créée, Mimeno Itbarach, et c'est Dieu lui-même qui a fixé les limites de cette nature, Shezema Shechusheinu Margishim, ce que nous pouvons toucher et sentir et ressentir avec nos sens. Combien de sens nous avons ? 5. Au-delà de ces 5 sens, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. C'est terrible quand même. Vous rendez compte que vous êtes là maintenant ? Vous êtes complètement limité à ce cours, alors qu'il y a des dizaines et des centaines de cours ailleurs que vous ne pouvez pas entendre simultanément. C'est dommage, non ? Vous rendez compte que vous êtes vous-même. Odaya, Yochevet, Felicia, Netanel. Vous êtes là, mais vous êtes limité à votre propre personne. Vous ne voudriez pas être vous et quelqu'un d'autre. Vous êtes encore une fois limité par vous-même. Vous êtes maintenant de 3 heures à 4 heures. Vous ne voudriez pas être au-delà du temps. Vous êtes limité dans le temps. Donc on est dans une prison qui ressemble à une bague, Teva, Tabat. Et cette bague-là, en réalité, on ne peut pas en sortir. Et cette bague a été créée par l'infini. Donc l'infini a créé le fini. Donc en réalité, on est limité par nos sens et nos sens donnent des informations au cerveau, à l'intelligence. Étant donné que nous sommes dans un monde de création, donc de créature, eh bien, nous sommes dans le pluriel et dans la dispersion. Chez Dieu, cette notion n'existe pas. Hachem Echad, c'est ce que nous disons, et d'ailleurs le Ramchal, c'est le maître en la matière. C'est celui qui a développer au maximum ce qu'on appelle la notion de yichud, de cette unité. Pas de croire que Dieu est un seul et qu'il n'y en a pas deux. Ça, c'est des bêtises, ça. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons qu'il n'y a rien d'autre que cette unité. C'est ça, la grandeur. Rien d'autre n'existe. Alors, vous voyez que le sujet est vaste. Il est énorme. Oulam, cependant, kvarik damnu, nous avons déjà dit au préalable, chez Amitat Metsiuto Itbarach, que la réalité de son existence, béni soit-elle, eina museget. On a bien compris qu'on ne peut pas atteindre avec notre cerveau, avec notre intelligence, on ne peut pas concrétiser Dieu. Ve'ele akishmi masheroim babruim alaboré Itbarach. On a déjà dit qu'on ne peut pas dire que voilà, si ça se passe en bas comme ça, c'est que chez lui, c'est pareil. Ki en inyanam ou metziutam shava. Klal. Parce que ce que vous voyez dans notre monde à nous, ce n'est pas du tout l'existence qu'il y a dans l'infini, béni soit-il, chez nous, chaladin, mise, alze, pour qu'on puisse comprendre de l'un vers l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a quelques degrés que nous pouvons, mi besari et chese, Eloha, c'est dit, c'est un verset. Depuis ma chair, je pourrais voir, entrevoir les valeurs d'en haut, mais pas dans son entité à lui infinie, mais dans certaines de ses volontés qu'il veut bien faire passer par moi. Alors, à ce stade-là, j'arrête 5 secondes et je parle, bien entendu, d'un intermédiaire entre l'infini tel qu'il est dans sa réalité infinie, et notre monde à nous qui est déjà dans l'ordre du fini. Eh bien, l'intermédiaire entre les deux, c'est ce qu'on appelle les 10 sphirot. Les 10 sphères, Esser sphirot, c'est en réalité 10 écrans. 10 écrans qui sont censés affaiblir la lumière pour qu'on puisse la recevoir en bas. La première sphère, la lumière est énorme. La dernière sphère, on ne voit pas du tout la lumière tellement l'écran est déjà épaissi. Et nous voici dans ce contexte-là, et toute la Kabbalah va traiter des trois premières sphères où la lumière est immense, vis-à-vis ou par rapport aux sept sphères inférieures où la lumière commence à diminuer de son intensité. Et ces 7 degrés inférieurs, c'est en réalité leur concrétisation, leur cristallisation, ce sont les 7 jours de la semaine. Donc en réalité, les jours, le temps que nous vivons dans la semaine, ce sont en réalité les 7 sphères inférieures dans lesquelles se cachent les 3 sphères supérieures. Et voilà le jeu, c'est que dans les 7 inférieurs, nous devons réaliser en fait l'unité divine. On l'a dit à Yom HaKippourim sans très bien comprendre ce qu'on disait. Echad, Echad ve'Echad, Echad ve'Shtaim, Echad ve'Shalosh, Echad ve'Arba, Echad ve'Chamesh, Echad ve'Shesh, Echad ve'Sheva. Voilà. L'unité première, Echad, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en bas. La même unité qui se dévoile dans 7 degrés différents. Premier degré s'appelle Rishon, Chesed. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Shishi et Yom Shabbat. Ok? Aval, maintenant on continue.
Okay. Est-ce que vous pouvez faire, comme vous êtes artiste, ça vous sera facile de faire ces dessins des sphirotes et de les expliquer ou les montrer?
Oui, on va y arriver dans quelques cours. Be'ezrat Hashem, c'est déjà prévu. Le dessin est là et je vous le mettrai comme je suis en train de vous mettre le texte sur l'écran. Vous me voyez ou vous ne voyez que le texte?
On voit les deux.
On voit les deux.
Sur le côté, oui.
Ok.
Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît, qui sera rapide? C'est la question de Or Haganous. Oui. Est-ce que c'est justement dans la lumière cachée qui est dans les 3 sphères? Du haut.
Tout à fait, le Or HaGanouz est caché dans les 3 sphères du haut, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, ce Or HaGanouz va commencer à se dévoiler à partir de mardi soir cette semaine.
Merci.
Je rigole pas, hein?
Non, pourquoi?
Je rigole pas, je vous explique pourquoi, tout simplement parce que mardi soir on arrive à la date du Yud Cheshvan.
Oh.
Le Yud Cheshvan, c'était les 7 jours où Akadosh Baruch Hu a dévoilé cette lumière dans le monde avant que le déluge ne s'abatte sur la terre.
Mm.
Donc, si on a cette information extraordinaire, dans le sens en dehors de l'ordinaire, eh bien, il faut tout simplement utiliser ces 7 jours à partir de mercredi pour arranger en soi, en nous, toutes nos vertus. C'est-à-dire que toute la journée de mercredi, vous allez devoir être dans la bonté, dans le partage, dans le chesed.
Cette semaine, de parachat de l'Echlach.
Je parle de cette semaine, maintenant. Merci. Mercredi qui vient, dans 3 jours, dans 2 jours.
Ok.
Mercredi, vous allez devoir être dans la bonté. Si vous voulez, vous associez à la qualité de la lumière, vous comprenez? Parce que c'est la lumière de la bonté qui va se révéler sur Terre. Le lendemain, ce sera la rigueur. Il faudra donner des limites aux choses, savoir où sont les limites. Qui m'empêche d'avancer dans ma vie? Qui m'aide à avancer dans la vie? Faire une sélection de ceux avec qui je ne veux plus avoir affaire et ceux avec qui je veux rester.
Amen.
Mardi, le troisième jour, ça sera mercredi, jeudi, vendredi. Eh bien, il va falloir faire un équilibre dans notre vie. Savoir, en réalité, trouver la médiane. Savoir trouver ma place, savoir trouver l'équilibre, savoir trouver l'harmonie dans ma famille, dans moi-même. Et ainsi de suite, Shabbat, ça va être le Netzach, c'est-à-dire faire les choses, mais les faire belles. C'est-à-dire mettez tout ce que vous avez de plus beau sur la table de votre prochain Shabbat.
Wow.
Dimanche d'après, il faut que vous soyez dans le hod, c'est-à-dire que vous soyez dans une possibilité de dévoiler, de descendre les éléments vers le bas, ne pas laisser dans un monde virtuel. Yesod, lundi, ça va être le fondement, c'est-à-dire faire attention à tout ce qui est passage dans notre vie, tout ce qui est conducteur dans notre vie, tout ce qui est passeur de lumière dans notre vie, notre bouche, nos expressions, la Brit Mila, bien entendu pour les hommes, tous les rapports sexuels et ainsi de suite. Et le dernier jour, mardi, ce sera la Malchut, la royauté, donner du kavod à sa femme. Donner du kavod à la femme d'une manière générale, c'est-à-dire à l'Assemblée d'Israël, qui est d'abord et avant tout la grande épouse d'Akadosh Baruch Hu. Voilà un petit programme pour cette semaine.
Merci beaucoup, super.
Oh, un grand programme.
À la fin du cours, je passe avec la kippa pour récolter...
Rav Yoel, je m'en occupe.
À 25 ans.
Non, excusez-moi, vous avez dit c'est ce programme-là, c'est tous les ans à partir du Yud Vecheshvan ou c'est spécialement cette année?
Tout à fait, toutes les années, seulement personne ne l'enseigne, mais Be'ezrat Hashem, cette année j'ai pris la décision avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu de commencer à divulguer certaines choses qui étaient jusque-là cachées.
Parce que Rav Yoel, en général, on dit Chodesh Cheshvan, En Bo Klum, aval ze Chodesh Shmini.
Tout à fait. C'est justement le lien avec la Brit Mila. Et ce n'est pas par hasard que Yerovam, qui a vu cette lumière,
Nahon,
a décidé de faire une fête qui n'existe pas en fait. Mais étant donné qu'il a compris le sujet, mais qu'il a inventé de lui-même le jour même de la fête, ça n'a pas été accepté. Mais toujours est-il qu'il a compris le secret de ce mois-ci, ainsi que le roi Salomon lui-même, puisque le roi Salomon a non seulement... fini de construire le Beth Amikdash pendant le mois de Cheshvan. En plus de cela, il voulait faire la Chanukat Bayit à Cheshvan, ce qui sera fait au troisième Beth Amikdash. La Chanukat Bayit, donc marquez-le dans vos carnets, la Chanukat Beth Amikdash sera le mois de Cheshvan. On continue. Avalze, Gamken minadvarim anodaim ba Kabbalah. Tout ce qu'on vient de dire, c'est connu dans la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la capacité à réceptionner les choses. Kemoshe katav, comme nous l'avons déjà dit, ou me ummatim ba chakira al piatev atzmo bechukotav mishpatav shei efshar al kol panim shelo imatze matzu echad meshulal mikol ateva chukot vegvula. C'est extraordinaire, nous dit ici le Rav, si tu rentres maintenant dans le micro, tu vas voir que chaque élément dans ce monde, on va prendre par exemple un grain de sable, eh bien il contient en lui toute l'existence. C'est-à-dire que le grain de sable lui-même est un monde à part entière, comme un univers, avec des galaxies et tout ça dans ce petit grain de sable. Ça veut dire que l'infini se trouve dans le fini. Ce qu'on appelle en français la jeb. D'accord? Mikol et Eder vechisaron. Ah ouais, c'était petite blague, c'est pas grave. Mikol et Eder vechisaron. Donc, toutes les manques.
On a rigolé, mais le micro était coupé. On a rigolé.
Pas grave. Même le micro est Kodesh. C'est ce qu'on dit. Zacher, le micro est Kodesh. Mikol et Eder vechisaron. Mikol ribouy veharkava. Donc, on voit ici qu'il y a l'infini dans le fini. Mikol yachas ve'erech, mikol mikra bruim, sheyehu hasiba amitit, lekol hanitzaot, lekol hamitiyaled bam. Par contre, la seule chose qui manque dans ce grain de sable ou dans n'importe quel domaine, ki zulat ze metziut hanitzaot shanu roim atmadatam haya bilti efshari. Ils n'ont pas eux, ils ne sont pas eux la source de tout le reste. Alors que dans notre sujet, c'est-à-dire l'infini béni soit-il, c'est la seule source. Il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui a fabriqué l'infini béni soit-il. Vav. Umimash et tsarich sheyeda od. Est-ce que nous devons encore savoir? Qui c'est qui doit savoir? Rappelez-vous, hein? on a dit au début du cours, de notre cours, qui c'est? De qui on parle? Kol Yisrael Tzarich. C'est chacun de nous. Rabotai, ce n'est donné qu'à ce peuple. Tzarich Sheya Amin. Est-ce que quelqu'un peut me traduire ce mot? Kol Yisrael Tzarich Sheya Amin.
Il doit certifier.
Ah, il a fait, mais je vois qu'il y a des talmidei chachamim.
J'ai failli dire la foi, mais j'ai peur de me faire taper.
Ce n'est pas que nous devons croire, mais nous devons certifier. C'est à nous de certifier. Nous avons été créés pour ça. Donc, mimat shetzarich sheyedaot shamatsuyaze, donc que cet existant-là, itbarach shemo béni soit son nom. Écoutez bien. Mouchrach sheye echad velo yoter. C'est obligatoire qu'il soit un et pas plus. Impossible qu'il soit plus. Pérouche, explication. Chez Iefchar, chez Imatsu, Metsuim, Rabim, on ne peut pas trouver plusieurs êtres chez Metsiuta, Mouchrach, Meatsmo, que leur existence est obligatoire comme celle de l'infini et qu'elle n'existe que par elle-même. Ça n'existe pas. À partir du moment où il y en a deux, c'est qu'il y a déjà rivalité. D'ailleurs, dans les religions, il y a toujours un Dieu, on ne sait pas d'où il sort, qui est l'antithèse du bon Dieu, et il y a toujours un combat entre les dieux. Chez nous, ça n'existe pas. C'est une seule et même unité qui gère le tout. Donc, il n'y a pas de Metsuim Rabim chez Metsiuta Mouchach Me'atzmo. Ela Echad Bilvad, il y a un seul qui est comme ça. Tzarich Sheimatse Be'metsiuta Mouchach. Et ça, son existence est obligatoire, car sans elle, il n'y a aucune existence à rien, ni à personne. Donc, c'est lui seulement qui est Hashalem Hazeh, qui est ce complet et qui n'est pas combiné d'éléments qui se sont rassemblés pour fabriquer du style Frankenstein. Ça n'existe pas. Et si vous avez trouvé d'autres existants, bien tous les existants que vous avez rencontrés et même ceux que vous n'avez pas rencontrés dans votre vie, ils existent, ils n'existent que parce que c'est lui qui les a fait exister. Et donc leur existence à tous, Kluimbo dépend de lui, tout dépend de lui. Dépend dans le sens pendu, hein. Taloui, en hébreu. Comme s'ils avaient une corde, ils pendaient de lui. Velo metsuim be'atzmam, et ils n'ont aucune existence à part entière. Ça n'existe pas. Personne n'existe. Nous existons tous de lui.
Une corde.
Je termine avec le dernier passage, comme ça on finit le Perek Aleph. Nimtza, donc un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Klal, Hayediot, tout l'ensemble des connaissances. Ashor Shiot, qui sont des racines, qui sont des matrices. Ha'ele, Vav, tout ce qu'on vient de dire, c'est au nombre de 6. Vav. C'est-à-dire, toutes les connaissances qu'on vient de dire, c'est 6. Et voilà, on va les énumérer pour faire un récapitulatif rapide et on termine avec cela. Première des choses, Amitat Metsiuto Idbara. D'abord, la vérité de son existence, béni soit-il. C'est-à-dire être conscient de son existence. Dieu, deuxième degré, Shlemuto, qu'il est complet, qu'il ne manque de rien. Troisième, Echreach Hemtseo, l'obligation de son existence, sinon il n'y aurait rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre. Cinquième point, quatrième point, Heyoto Biltinitle Bezulato, il n'est pas dépendant de autre chose, de rien d'autre. Et cinquième degré, Pshituto, sa simplicité, donc il n'est pas composé. de forces qui ont fabriqué cet élément-là, cette identité-là. Et dernier degré, la sixième force, Yichudo, son unicité, c'est-à-dire celui qui gère le tout, tout seul, et il n'y a pas un deuxième, ni une deuxième force, il n'y a rien du tout qui est égalé à ce degré infini. Voilà la clôture de ce premier Pérec. Si vous avez une ou deux questions, je vous
écoute. Oui. Rav Ben Arouch, dans le cours précédent, vous avez enseigné le fait que on était invité en quelque sorte de vivre notre expérience et de réfléchir à partir de notre expérience. Face à ce au texte, au premier chapitre, et particulièrement aux sept attributs qui apparaissent dans ce paragraphe, je me demande, je pose la question, vu le fait qu'il est inaccessible à notre intelligence, il y a certes les disphirotes, mais quelle est l'expérience humaine qui se rapproche au plus de ce qui pourrait être un lieu pour s'ouvrir à son unicité et à son unité?
Réponse, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire l'être humain le plus proche de ce que l'infini, béni soit-il, représente sur Terre, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi nous disent les Chachamim, nous font remarquer que la grandeur, la hauteur de Moshe est de 5 mètres. Pourquoi? De 10 amot, de 10 coudées, ce qui fait à peu près 5 mètres. Est-ce que vous pensez véritablement que les sages viennent nous donner la mesure humaine de Moshe? Les sages viennent nous dire que ce qu'est-ce qu'un homme dans ce monde peut arriver à atteindre au maximum de ses forces. Et étant donné que le plafond du Mishkan faisait 5 mètres, Moshe touchait le plafond en réalité. Donc il a touché le plafond humain vis-à-vis des valeurs de l'infini. Mais même Moshe, avec toute sa grandeur, n'a atteint que 49 degrés, alors qu'il y en a 5 seulement du discernement, je ne parle pas des sphirotes plus élevées. Donc nous avons un autre être qui va apparaître sous la forme de Moshe, qui va s'améliorer, qui va devenir le Mashiach. Donc le Mashiach, en réalité, c'est Moshe Rabbeinu amélioré version 2021 ou 2020. C'est-à-dire qu'il y a ici une évolution de l'être. Bien entendu, ce n'est pas terminé. Le Mashiach va évoluer et l'humanité tout entière après lui va monter pour atteindre de plus en plus de connexions avec cet infini béni soit-il, sans jamais, au grand jamais, l'atteindre. Autrement dit, nous n'avons que l'expérience humaine, puisque nous avons été créés humains, mais, attention, pas limités comme nous le sommes aujourd'hui, car aujourd'hui nous sommes bien loin du modèle initial de ce que nous devions être. Nous devons revenir à ce premier modèle. Et c'est ça que je vous souhaite à tous, que je nous souhaite à tous, c'est d'être fidèles à ce que nous étions dans la pensée divine. Merci à tous.
Merci. Au revoir.
Shavua Tov. Shavua Tov. Regardez, si on peut changer avec David, peut-être le rythme des cours, parce que vous êtes un petit peu peut-être fatigué l'après-midi, c'est mieux...
Vous nous avez réveillé.
Non, Bezrat Hashem.
Rabba, c'était très bien, oui, merci.
Shavua Tov, Shavua Nifla.
Shavua Tov à tout le monde.